There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
À l'occasion du mois de la francophonie, Popourri Show, CUTFM, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, les rendez-vous de la francophonie, le Festival Ciné Franco Jeunesse, le Centre de la francophonie des Amériques, présente Rire aux éclats. Un thème qui fait un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars. Tout au long du mois de mars, CUTFM poursuit sa tradition avec des émissions spéciales afin de célébrer les valeurs communes de la francophonie que sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie. Car s'ouvrir sur la francophonie, c'est avant tout s'ouvrir sur le monde. Restez à l'affût de notre programmation et les activités de nos partenaires en cliquant sur popourrishow.com. Mais que se passe-t-il dans l'espace francophone en 2024? Comment expliquer le déclin de la langue française partout au Canada? S'agit-il d'une réalité ou d'une exagération? Le déclin du français au Québec, alarmiste ou réaliste? Comment vit-on l'insécurité linguistique? Pourquoi les jeunes enseignants décrochent? Témoignage choc. Pourquoi les francophones utilisent-ils encore et toujours des mots anglais lorsque des mots français équivalents existent déjà? Le français est-il encore une langue internationale? Mois de mars 2024, rire aux éclats. Chansons, jeux concours, enquêtes, conférences, littérature, dictée de la francophonie. Concerts, humour et des surprises avec CUTFM et ses partenaires en collaboration avec RFI, France Inter, France 24, TV5 Monde. Popourri Show croit fermement en une francophonie plus solidaire, plus forte, plus inclusive et plus riche. Une francophonie vivante, plurielle, engagée et innovante. Bon mois de la francophonie sur CUTFM. Et popourrishow.com. Bonne célébration.
Merci.
Et on va donc s'intéresser à l'avertissement du jour, celui de l'Académie française. Selon elle, nous sommes en train d'être envahis par les anglicismes, que ce soit au travail ou dans notre vie de tous les jours, notamment au travers des publicités. Et même nous, à RMC, on n'y échappe pas. À RMC, par exemple, Info Talk Sport, ça pourrait être Info Discussion Sport, ou encore nos émissions comme le Super Moscato Show, le Super Moscato Spectacle, ou alors l'After de Daniel Riolo. Mais qu'est-ce qu'on fait, Daniel ?
Je ne sais pas.
Mais quand même, vous êtes conscient?
Absolument.
De
absolument.
Cette dérive.
Et j'ai lu l'article, j'ai lu l'interview d'Hélène Carrandanco ce matin dans le Figaro. Comme elle dit, l'Académie n'est pas le gendarme de la langue française. Il peut en être le surveillant éventuellement, mais il y a pas réellement de sanctions parce que la loi Toubon qui était censée faire attention à ce problème, en fait, elle ne sert à rien du tout. On voit pas. Qui va venir justement me dire, bon, tiens, toi, je te file une amende parce que ton émission s'appelle l'After Foot. Évidemment que ça n'existe pas. C'est une évolution de la langue face à laquelle il est bien difficile de réagir. Est-ce qu'on pourrait envisager que dans un programme politique, les candidats disent par des campagnes, et ça pourquoi pas après tout, dans des campagnes, des spots, défendons la langue française, défendons la langue française. Ça veut dire sans être extrémiste qu'on peut supporter, parce que de toute façon on est bien contraint de supporter des exceptions et des anglicismes toujours plus présents dans notre quotidien, mais entreprendre une démarche qui consisterait à dire, dans la mesure du possible, n'oubliez pas, parce que c'est important, défendons la langue française, ça pourrait faire partie d'une campagne publique.
Et avoir peut-être, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le débat, mais avoir peut-être aussi des amendes, voilà, interdire les émissions avec des noms anglais, mais en tout cas, on en sourit.
Ça pourrait être dans le programme d'un candidat à l'élection présidentielle.
On en sourit.
Moi, j'aurais pas de problème à ce qu'on appelle ça l'après-foot. Ouais.
Hein. Mais on a l'impression, commencez maintenant. Mais
le souci, c'est que l'anglais, ça fait cool, et le français, c'est devenu, il y a une tendance ringard.
Mais non.
Alors, un peu, Thierry.
Alors, on va en discuter après, mais je voudrais laisser parler Rémi, parce que je disais qu'on pouvait en sourire, mais l'heure est grave, Rémi, on est envahi.
C'est ce que dit l'Académie française, en substance. Alors, pour ceux qui parleraient déjà d'un combat d'arrière-garde, il faut d'abord bien préciser que l'Académie française ne revient pas là sur la question des mots ou expressions tels que week-end, email ou encore babyfoot. Non, ce qui est dénoncé cette fois par l'Académie, c'est l'institutionnalisation des anglicismes dans notre pays. Si les enseignes privées mettent désormais régulièrement en avant leur promotion, on le sait, à travers leur French Days.
Ah, ça m'agace.
C'est un comble. La Poste, elle, propose désormais de chercher votre colis dans une pick-up station.
C'est un relais.
Dans le même temps, pour valoriser son territoire, le Val-de-Loire, par exemple, devient My-Loire-Valais. Maubeuge, une creative city.
Sarthe Me Up,
j'aime bien.
Ouais. Alors, selon l'Académie, qu'il y ait des anglicismes convenus, ancrés dans la vie de tous les jours, rock'n'roll, par exemple, en abusé, appauvrirait la langue française plutôt que de l'élever.
Et rock'n'roll, c'est pas pareil, c'est parce que c'est un style musical.
Mais ce que veut dire l'Académie, c'est qu'on revient pas sur des choses comme ça. Là, c'est plus grave, une perte de clarté aujourd'hui, surtout chez les, pas seulement, mais chez les plus de 70 ans et chez les personnes les moins éduquées, c'est ce que dit l'Académie, moins à l'aise avec l'anglais. Conséquence, la moitié des Français ont déjà renoncé à un achat car les informations n'étaient pas traduites. Et si 47% d'entre eux sont agacés des Français, voire hostiles à l'anglais dans la pub, ce chiffre grimpe à 70% chez les seniors. Selon l'Académie, il y a un vrai danger de déclassement d'une partie de la population.
C'est grave, Cyril.
Ah ben c'est très grave. Je pense que je suis complètement d'accord avec l'Académie, même si c'est peut-être pas le meilleur avocat parce que effectivement ils sont souvent taxés de d'être un peu conservateurs. Mais il y a un vrai problème sur la langue française. Il y a trois objectifs: préserver notre langue. On a une langue qui est belle, c'est une langue diplomatique, etc. Il faut la préserver, donc éviter les anglicismes trop nombreux. Lutter contre l'invasion. Et Rémi l'a très bien dit. Maintenant c'est une invasion de des mots anglais. Et la troisième chose, c'est qu'on évite l'exclusion d'une partie de la population. Moi je vous dis qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'une Startup Nation, ne savent pas ce que c'est. J'ai vu que Leclerc avait inventé un drive piéton.
Hein?
C'est un guichet.
Un drive piéton. Ah, mais un drive dans les supermarchés.
Oui, un drive piéton.
Ah oui, pour aller chercher les...
Oui, d'accord, mais je pense qu'il y a des gens... Je pense qu'il y a un risque d'exclusion d'une partie de la population. Alors, ok, vous allez me dire, la plus âgée, la plus rurale, etc. Il faut penser à ces gens-là, c'est un risque d'exclusion. Et moi, je trouve qu'on devrait donner un exemple. Et par exemple, quand je vois France Télévisions qui met à l'antenne une émission qui s'appelle The Artist, parce que la société de production veut ensuite l'exporter à l'étranger, donc ils tiennent à ce mot en anglais, eh bien je trouve ça pas bien. Je pense que, par exemple, France Télévisions devrait prendre l'exemple et ne jamais avoir de mots en anglais dans ses titres d'émission, et l'État devrait donner exemple, et le président de la République...
Alors c'est pas vraiment une invasion, c'est plutôt que nous de l'intérieur, on devrait ne pas aller vers ça. L'invasion, c'est quand ça vient de l'extérieur. Par exemple, si tu cites le cas de France Télé qui appelle des émissions, de nous-mêmes, on devrait refuser de le faire en imposant le français.
Mais attends, c'est ça. France Télé, c'est une chaîne nationale, tu vois ce que je veux dire. RMC, c'est une chaîne privée.
Non, mais payé par nos impôts.
C'est pour ça qu'il y avait également là une petite nuance que Thierry a introduite et qui est juste le service public, ça devrait commencer par là.
Et la poste,
et la Sorbonne qui vient de se baptiser. Oui, va, quoi.
Oui, non, parce qu'en fait, c'est le oui, mais le oui, c'est oui, W-E. Ouigo, c'est nous allons. Ouigo.
Ça j'étais pas arrivé. Là,
il y a une banalisation, une institutionnalisation de ça, et la Sorbonne vient de changer de nom. Désormais, c'est Sorbonne Université.
Ouais, mais là, c'est pour être, parce qu'il y a un rayonnement mondial.
Oui, non, mais on est d'accord.
D'accord.
Sauf que c'était l'Université Sorbonne.
Ben oui.
Bon. Ben oui, mais il y a une banalisation.
D'accord, Rémi Barré, c'est votre retour, je ne peux rien dire.
Après, et qu'est-ce qu'on fait quand ça sert?
Bah oui, elle a pas encore parlé, Daniel. Enfin, pardon, Fatima, justement. Ouais. Est-ce qu'il faut essayer d'interdire les anglicismes? Au moins, dans les sociétés, la Poste, la SNCF, France Télévisions, qui sont des sociétés, nationales, quoi.
Bah, c'est sûr. En fait, ce qui est très dur, c'est de lutter contre des usages. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a voulu, justement, imposer le mot courriel pour remplacer email, et ça avait fait un flop. Et c'est vrai que, par exemple, au Québec, j'ai des copains québécois qui, eux, gardent vraiment, ils font cette résistance-là. Elle est culturelle, ils vont parler de fin de semaine, pas de week-end, etc. Et c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je l'ai remarqué, d'ailleurs je suis venue sur ce plateau en écoutant les GG, donc RMC, il y a un des chroniqueurs qui a parlé de la fanbase de Mélenchon, et il y a Zemmour, et on a entendu un extrait de son meeting qui dit « Ne votez pas pour Pécresse, c'est du Zemmour light ». Donc c'est sûr que c'est quand on y prête attention, c'est vrai que c'est de plus en plus envahissant, et moi en plus, en 2018, j'ai été séquestrée pendant toute une année dans un coworking.
Ah oui, d'accord, c'est pas une vraie séquestration.
Parce que je bossais pour une start-up.
Kidnapping.
Et franchement, c'était digne du sketch des Inconnus là sur les publicitaires. Oui. C'était vraiment, Fatima, est-ce que tu peux laisser ton desk sur The Table avant de go home? Vraiment, je te jure que c'était de cet ordre-là. Et d'ailleurs, même moi, tout à l'heure, en parlant avec le chauffeur tout à l'heure, je lui dis oui, parce qu'il t'a jeté plein de fleurs, et je lui dis oui, c'est vrai, il est très punchy. Et j'ai dit qu'on bossait dans un open space au troisième étage. Voilà. Et justement,
punchy, c'est ce qui caractérisait.
Ouais, je trouve qu'elle est assez punchy comme meuf. Et c'est vrai que quand j'étais dans ce coworking, c'est vrai que c'est un univers très business. J'arrête pas d'enchaîner les anglicismes et que du coup, l'anglais là-dedans, il a le lead tout simplement. Donc voilà, c'était le dernier anglicisme.
La question qui se pose.
Mais juste une dernière chose, c'est par rapport aux injonctions contradictoires. C'est-à-dire que maintenant, pour être dans ces mondes-là, on t'incite à parler anglais et du coup, à rentrer dans cette culture du franglais. Sinon, tu es exclu. Moi, j'ai été exclu. J'étais marginalisée pendant cette année-là et je retournerai plus jamais dans ce genre d'environnement professionnel parce que ça me convient pas. Mais c'est sûr que ce serait bien d'opposer une résistance parce que j'ai trouvé ça d'ailleurs d'abord très ridicule.
Alors le premier à utiliser des mots anglais, c'est notre président Emmanuel Macron. Je vais entendre un extrait d'un discours qu'il a tenu il y a quelques semaines.
Progressivement, j'ai pivoté le business model.
On a besoin de développer un venture capital français.
Le small is beautiful.
Cette culture du invented here.
Entre le numérique et les clean tech et le healthcare.
On a fait du job mentoring.
Et donc la silver economy, le crowdfunding.
C'est plus start-up en France, c'est scale-up.
Entrepreneur is the new France.
Voilà, entrepreneur.
Ouais, ça revient à la question que je voulais poser, mais si ça permet pour certaines entreprises, le développement international.
Non mais...
Parce que sinon, ça te ferme un peu les portes et qu'en faisant ça, comme il vient de faire, là, le président, bah, tu montres que t'es prêt à faire du business avec les grandes boîtes.
Mais il faut faire le distinguo, Daniel, entre quand tu t'adresses évidemment à des start-upers, ce mot-là, à des jeunes pousses françaises qui sont dans la tech, parce qu'on appelle ça la tech, tu peux leur parler avec leur langage. Le point sur lequel l'Académie française met l'accent, c'est sur l'invasion qu'on voit partout. Et donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un drive piéton, par exemple? Non, c'est pas nécessaire.
Air France, nombre de Skyteam.
C'est pas nécessaire.
Quoi.
Encore une fois, je pense qu'effectivement, pour s'exporter, il faut prendre les moyens de s'exporter. Tu as raison.
C'est
dans certains contextes. Pour le reste,
mais c'est vrai que c'est drôle. Après, c'est drôle quand tu te fais traduire. Nous, on va faire l'après-foot ce soir. Et puis, Estelle, elle va prendre l'avion et puis elle est dans l'équipe du ciel.
Il y a des mots anglais qui vont rentrer.
En fait, c'est ça qu'il faudra dire.
Bah non, Estelle, midi. Pour le coup, c'est bien.
On est avec Rémi, tiens. On peut parler du Canada.
Estelle Lunch.
Exact, Estelle Lunch. Poilu du Canada, Fatima Benomar et Rémi vient de Montréal. Bonjour Rémi.
Bonjour, ça va bien?
Bah bien et vous, le petit accent qui va bien. Rémi, vous n'utilisez à Montréal jamais de mots anglais. Vous mettez un point d'honneur à tout franciser.
Non, là, non, c'est pas, c'est différent. C'est parce que nous, on a un contexte où on est encerclé par les Américains et le Canada anglais. Il y a la loi 101, ce qui fait qu'au niveau de l'affichage, des fois, là, ça fait des, la vieille génération, ça fait des débats. Je parlais tantôt avec le rechercheur. Tu sais, vous, en France, vous dites Happy Meal ou, des fois, j'entends les pubs pendant que j'écoute la Ligue 1, les Chicken Nuggets. Ben, nous, c'est des croquettes de poulet.
Des croquettes de poulet, ça fait moins envie, hein. Ça fait un peu un truc pour chien.
Ah bah non, croquette de poulet,
croquette
ça passe.
Croquette de poulet, ça fait... Ouais, non, ça fait pas ça.
Plutôt que nuggets ?
Ah ouais, je préfère nuggets.
Ah non, ça passe, croquette
de poulet. Tu vas manger, prends-moi une boîte de 6 croquettes de poulet. Ça va pas du tout. Non, bah, alors, bon, continue.
C'est très subjectif.
Ouais, c'est vrai, ouais.
C'est l'habitude. Ok, d'accord, je veux dire.
Enfin, en Italie, truc poulet, ce genre de choses.
Ouais. D'accord.
Okay. Et, par exemple, Pulp Fiction, ils traduisent par fiction pulpeuse.
Ah ?
C'est le titre de Pulp Fiction au Québec.
Non, Pulp Fiction, c'est la pulpe de la fiction. Donc déjà, c'est une mauvaise traduction.
C'est traduit au Québec.
Oui, d'accord.
Fiction pulpeuse.
On va demander à Rémi. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme traduction, Rémi?
Moi, personnellement, je vais dire Pulp Fiction, mais il y a une certaine génération, effectivement, ils disent fiction pulpeuse. Je vous dirais qu'il y a comme... les plus vieux sont plus attachés, je vous dirais. Je suis enseignant, là. Je regarde les élèves, même les élèves, des fois, c'est plus juste des anglicismes, c'est des termes qui viennent des langues du Maghreb ou... parfois, on se comprend qu'on sait tout simplement pas. Si je parle du Parti québécois d'une classe du PQ, la moitié des élèves qui ont passé par le même agrès, mais pourquoi vous parlez de papier de toilette, t'sais? Donc, l'anglicisme chez nous, la langue est en train de, chez nous, des jeunes de se fusionner. Et c'est toujours drôle, c'est d'entendre des animateurs de Radio-Québec dire que les enseignants ont des mauvaises notes en français et commencer leur émission avec l'anglicisme bon matin. Et là, on se dit, ben, voyons donc, grisez-vous. Donc, il y a toute cette question-là. Puis, je donne un exemple. En France, le football, nous ici, football, il faut pas dire ça, il faut dire soccer. Puis quand l'Impact a changé de nom, au début, on pensait peut-être qu'appeler FC Montréal. Et là, le Parti québécois, il disait, ouais, mais là, vous allez angliciser le nom de l'équipe. Il y avait tout un débat, alors que chez les jeunes, c'était comme... Et finalement, on se ramasse avec un nom de clown, club de foot. Ah oui. C'est un débat qui court au Québec, mais je dirais que c'est vraiment un clivage entre les générations. Les plus jeunes sont passés par-dessus ça. Ils ont tendance à peut-être parler. Surtout, tu sais, nous, nos jeunes consultent beaucoup plus par Internet de culture française qu'américaine, ce que je remarque chez les élèves, parce que pour la région de Montréal, là, j'entends beaucoup plus parler de trucs qui se passent en France qu'aux États-Unis, ce qui fait que probablement, il y a une progression chez les jeunes, peut-être une tendance à se franciser à la française plutôt qu'à la québécoise.
Bah merci en tout cas Rémi pour ce témoignage et pour votre appel de morale. Donc, on n'a pas tout compris parce que c'est vrai que ça parle très vite manifestement à Montréal, mais en tout cas voilà, on comprend qu'il y a un effort justement pour essayer de parler français. Mais Rémi disait un truc intéressant, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'anglais en fait, il y a aussi l'arabe qui arrive quand on dit le kiff. Après
de toute manière, il y a plein de mots, et encore ça tu arrives à deviner que c'est de l'arabe, mais il y a plein de mots en France où quand on va chercher ils ont des origines étrangères. La gazelle, c'est le razel, ça vient de chez nous aussi, désolé. Mais, enfin, pas désolé d'ailleurs.
Pas être désolé.
Oui, voilà. Je veux dire. Mais oui, de toute manière, il y a un brassage qui s'est inspiré de plusieurs racines de langue, même si ça reste.
Que quelques mots comme ça intègrent la langue au bout d'un certain usage, je suis d'accord, mais
c'est quand
fois,
ça devient, comme il dit, systématique par facilité, comme dans la parodie que tu décrivais tout à l'heure. C'est, en fait, c'est là que ça devient.
Et franchement, c'est ce que j'ai vécu dans ce co-working, c'était pire que la parodie.
En fait, on devrait combattre quand c'est facile à combattre et ne pas rentrer dans un extrémisme résistant.
Le monde de l'économie, c'est quand même un monde de pouvoir, c'est-à-dire que voir que la culture anglophone imprime plus que la française, c'est dommage. Il n'y a pas de raison à la base pour ça.
Yeah. Un message très intéressant sur Direct Studio qui est signé par Ali, qui nous dit « Je suis prof d'anglais et de français. Et je constate que les enfants sont de moins en moins bons en français et de pire en pire en anglais.
Ah bon,
on les biberonne aujourd'hui au terme anglo-saxon grotesque que ni eux ni leurs parents ne comprennent. » Et ça, c'est intéressant.
Il y a un exemple,
mais
il donne
c'est
un
quoi,
exemple.
Mais non, mais c'est-à-dire qu'on parfois on emploie des termes anglais que personne ne comprend, qui sont pas forcément adaptés pour faire chic, pour faire anglais, c'est branché. Et en fait, personne ne comprend ce que ça veut dire. On interprète ce mot sans chercher à vraiment chercher la définition. On l'interprète d'une certaine manière et ensuite les enfants en cours le ressortent. Donc emploie des mots d'anglais pour au lieu d'utiliser l'expression française, donc appauvrissent leur vocabulaire et emploie ce terme en anglais, alors qu'il n'est pas adapté forcément à ce qu'il
est. Là, on ne sera pas d'accord avec Daniel, mais typiquement, moi, ce que je déteste dans le mot wokisme, c'est qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui que pour miner le débat. Je n'arrive plus à poser un argumentaire parce qu'on va me dire oui, non, mais ça, c'est wokiste. Et du coup, je dois me débattre contre ce concept-là qui est fait pour être plein de fous.
Et après, vous avez aussi les abréviations anglaises. Maintenant, on dit toujours, pour dire le meilleur joueur, the goat, tout comme ça. Alors, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire la chèvre. J'ai mis du temps à le comprendre, mais ça veut dire the greatest, sauf je sais pas quoi. Bref, il y a que ça, azap, tiens, voilà. J'arrive à ASAP, as soon as possible.
Je n'utilise pas ces mots-là. Après, c'est une affaire de génération.
Mais oui, mais il y en a plein.
Les deux que tu as cités, je ne les utilise jamais.
Bah, the GOAT est tout le temps.
Je ne dis jamais The GOAT. Bah, je ne le dis jamais.
Nouveau vocabulaire sportif. Bon.
Bah, je ne le dis jamais. Je dis le
on est avec Jean Prouveau, The GOAT de l'histoire de la langue française.
Ah, je croyais le père de France.
Non, parce que je suis auteur de la story de la langue française aux éditions Taillandier. Merci Jean Prouveau d'être avec nous.
Ben non, c'est un grand plaisir et tout ce que j'entends me ravit. Hein. Bravo. Ah. Je trouve que vous faites du bon travail pour que finalement on s'exprime un peu plus élégamment, qu'il soit moins prétentieux, parfois avec des mots qu'on ne comprend pas.
Mais qu'est-ce qui vous choque le plus, vous, dans ces anglicismes qu'on utilise finalement de plus en plus sans même nous en rendre compte ?
Alors moi, ce qui me choque, c'est que effectivement, la langue française y perd parce qu'on oublie des synonymes. Je ne sais pas, on parle toujours du best-of. Alors on a le florilège, on a l'anthologie, on a le meilleur d'eux. On finit par oublier des mots qui existent. Hein. Je ne sais pas, on évoque le scoop, on a l'exclusivité, on a l'avant-première, on a la dernière heure, on a l'information exclusive, on a énormément de choses. Souvent, l'anglais est moins précis. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer. On ne va pas se battre et l'Académie française, je trouve, fait un excellent rapport. À l'ordre, en disant tout simplement que des mots comme week-end, football sont installés. Il ne s'agit pas non plus de jouer la chasse aux sorcières anglaises. Mais souvent, on oublie cette élégance. Et c'est vrai que moi, j'ai trois critères, en fait, souvent. Je me dis, si ma grand-mère ne comprenait pas, si mes enfants ne comprenaient pas, et si mes amis au café, quand je prends le café au comptoir, ne comprennent pas, c'est que ça ne va pas. Quand on m'évoque, je ne sais pas, le contact tracing, c'est pas très clair. Le greenwashing, la première fois que je l'entends, je n'ai strictement rien compris. Alors même quand vous faites de l'anglais, la première fois que vous entendez dress code, vous dites, ah bon, dress, ma grand-mère va pas comprendre, elle n'a pas fait d'anglais. Mais dress, c'est les robes. Mais pourquoi les robes? Alors après, on peut expliquer.
C'est le code vestimentaire.
Voyez, on a le code vestimentaire, c'est quand même tout aussi simple. Donc, il s'agit pas non plus de l'opposer. Et puis, j'ai beaucoup aimé, Fatima montrait avec beaucoup d'humour comment on peut jouer aussi. Il y a le moment où il y a de l'humour, et pourquoi pas dire 50-50 de temps en temps avec un clin d'œil au lieu de moitié-moitié. Et puis après, il y a le moment sérieux. Et c'est là où les radios comme RMC font un très bon travail, d'autres aussi, et d'autres un très mauvais. Parce que quand on est sérieux en évoquant le name-dropping... en évoquant, je ne sais pas, la team leader, le hashtag happiness, la deadline, forwarder un truc, etc. Bon, le back-office, qui va comprendre le back-office quand je suis au comptoir, là, ça ne va pas du tout. Donc, c'est une espèce de logique un peu humaine. Penser aux autres, avoir un peu de poésie aussi, éviter le ridicule. Maintenant, je pense aussi que quand on commence dans un métier, et je rejoindrai bien Fatima, elle parlait de ses laboratoires, enfin de ses coworking. Quand on commence un métier, on veut en mettre plein la vue. Alors on pense qu'en utilisant les mots anglais, on est dans le vent.
Ça c'est vrai.
Alors évidemment, bon, on s'en rend pas compte, mais vis-à-vis de 80% des gens, on est ridicule. D'ailleurs, les politiques, quand le président évoque tous ces mots, il y en a un certain nombre que j'ai entendu. Il y en a que je n'ai pas compris. Hein.
Il s'adresse au monde de l'économie et de la finance, mais dans leur jargon.
Mais moi j'ai une question quand même, Jean Prouveau, parce que je regardais un petit peu tous ces anglicismes et je me suis rendu compte, en fait, c'est très idiot ce que je veux dire, mais que les mots anglais étaient beaucoup plus courts que les mots français en général. Et donc je me demande si ça ne participe pas.
Il y a une simplification de l'échange.
À la rapidité de notre monde actuel. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que tout aille vite. Et donc en fait, effectivement, eh bien, le scoop, ça va plus vite que l'exclusivité. Et il y a énormément de mots anglais qui sont plus rapides. Mais l'excuse c'est une abréviation.
Le florilège à la place de best-of, c'est plus long.
Exactement. C'est donc, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi, l'idée d'aller vite, toujours plus vite?
Alors, c'est assez juste que de temps en temps, il y a la règle du tiers. Vous savez que quand on traduit un texte anglais en français, il faut un tiers de signe en plus, à peu près.
Voilà.
Donc, on a l'impression que le livre est plus gros. Bon, en même temps, on est souvent extrêmement précis et on va beaucoup plus loin. Je pense par exemple au burn-out. Bon, c'est l'épuisement. Mais on sait dire que ça. Donc, c'est raccourci. On peut parler d'épuisement psychique, d'épuisement émotionnel, d'épuisement mental, d'épuisement physique. Puis si on est un médecin du syndrome de l'épuisement professionnel, on est beaucoup plus précis. L'anglais est beaucoup plus léger, mais imprécis. C'est vrai.
Ben merci beaucoup en tout cas, Jean Prouveau. Vous allez peut-être réagir au propos de cet auditeur, Yves, qui nous appelle de Montluçon. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Et Yves voulait réagir à notre débat. Est-ce qu'il faut interdire, en tout cas essayer d'interdire au maximum les anglicismes dans la langue française?
En fait, je pense que le problème, c'est un problème, comme beaucoup de choses, de juste milieu qu'on a du mal à atteindre. Je voudrais faire une petite remarque au niveau d'utilisation à outrance des anglicismes. C'est que quelquefois, on va nous-mêmes dans la stupidité. Je vous donne un exemple. Le mot tuning, vous savez, dans les voitures, qui est bien implanté, ma foi, je trouve pas que c'est un abus, on l'a reconditionné en bolidage.
Ah oui, oui, là, vraiment,
on ne risque pas de faire de la promotion à notre langue en voulant aller jusqu'à l'absurde vers le ridicule. Voilà. Mmh. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je me demande si ce sont les gens vraiment qui font des erreurs. Moi, je pense aux publicistes. Pendant qu'il y avait le débat, je regardais les pubs de Renault.
Oui.
Renault, il avait un slogan. Renault, c'est un constructeur français. Hein.
Ah oui, oui.
Bon. Passion for life. Bon, je ne pense pas que ce soit français.
Bon, oui, Citroën, pour la vie.
Citroën, c'était, où est-ce que je l'ai mis? Citroën, c'était inspired by you. Inspiré par vous. Ils ne peuvent pas parler français?
Mais si, mais bien sûr, vous avez raison.
Même quand on veut faire des efforts nous-mêmes, les professionnels, donc au niveau média, c'est-à-dire ceux qui rentrent chez nous, ils nous bourrent le crâne avec des trucs, mais on n'en peut plus. Moi, des fois, j'en peux plus. Moi, après, j'ai une particularité, je suis dans l'informatique, et nous, en informatique, par contre, on ne peut pas se passer de l'anglais, parce que ça fait partie de la profession. Voilà. Mais après, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien implantées. Le monsieur, tout à l'heure, parlait du mot week-end, du mot scoop. Voilà, du mot football, volleyball, etc. Après, outre mesure, et puis là, vous voyez, mon esprit revient sur ce truc, les publicités, les médias,
les émissions.
À la radio pour les publicités, à l'intérieur de The Voice, on n'est pas obligé de dire les battles.
Oui, c'est vrai, mais bien sûr, et vous avez raison, c'est vrai.
C'est ce que dénonce l'académie.
Quand on tire le fil, c'est vrai.
Et même les prénoms, il n'y a pas un prénom français dans The Voice. À chaque fois, c'est toujours des
prénoms. C'est une référence au surnom donné à Frank Sinatra. Donc, à la limite, on peut garder, mais effectivement, à l'intérieur, là où il a parlé, par exemple, l'auditeur, c'est que oui, battle et machin, truc, on n'est pas obligé. Duel, face à face.
Oui, il y a moyen. Mais juste pour ne pas trop stigmatiser la langue anglaise, c'est que là, ce sont des mots qui viennent vraiment du monde du business. C'est-à-dire que la langue de Shakespeare est tout aussi riche et poétique que la langue de Molière. Là, c'est vraiment un anglais très précis qui nous envahit. Il nous envahit par la vanne du monde de la finance et du business.
Mais The Voice, ça s'appelle La Voix au Québec. Oui. L'émission s'appelle La Voix.
C'est Francis Tout. Greg nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour Greg. Greg? Ah.
Il n'y a plus de voix.
Greg est
parti.
Est parti. Je cherchais comment on disait, est parti en anglais, je suis très mauvaise.
Is gone.
Greg is gone. Bah écoutez, Greg n'est plus avec nous, mais en tout cas, vous êtes très nombreux à avoir réagi sur ce thème, sur les anglicismes. Il y en a plein, hein, Rémi.
Il y a même Greg qui nous dit sur
Direct. Peut-être le même.
Bah c'est peut-être lui. Alors, il nous dit salut l'équipe. Moi, je me suis toujours dit, en plus que certains mots qu'on utilise tirés de l'anglais sont très mal utilisés par les Français. ASAP, on le disait tout à l'heure,
As soon as possible
ne veut pas dire le plus vite possible, mais dès que possible. C'est complètement différent. Et par exemple, management en anglais ne veut pas du tout dire diriger une équipe, mais faire de la gestion. Donc on prime.
C'est un peu de la gestion personnelle, oui.
Ouais, mais non. La gestion au sens large du terme.
D'accord.
Et donc il nous dit, en plus d'utiliser des termes anglais, en anglais, on l'utilise très mal.
Et j'ai reçu non pas un SMS, mais un texto sur mon téléphone de la part de Perico Legas qui nous dit, n'oublions pas non plus les mots français utilisés par l'anglais comme parking et tennis, qui étaient au départ des mots français. Et c'est bien à Perico Legas de nous le rappeler. Merci en tout cas à Jean Perico d'avoir été avec nous.
Oui. Excuse-moi, mais tout à l'heure on n'est pas allé au bout. Tu voulais que ça s'appelle l'après-foot.
Oui.
Non, l'après-pied.
Là, je te l'ai dit.
Tu l'as dit, Fatima, je suis désolé, j'ai pas entendu.
Je t'écouterai ce soir et j'espère que tu diras bienvenue dans l'après-pied. Et quand tu parles, je veux que Gilbert Bribois dise bienvenue dans l'après-pied. Et Jean Prouveau serait très content de t'entendre dire ça ce soir sur RMC, la radio. Information, discussion et sport. Oui, ça fera bizarre, mais il faut s'habituer. Daniel, vous rentrez en résistance à partir de ce soir. Alors justement, on vous a posé la question, est-ce qu'il faut essayer d'interdire les anglicismes en France, Rémi Barré?
C'est une petite majorité, c'est oui à 59%.
Oui, mais c'est la facilité d'utiliser des mots anglais, mais c'est pas bien, il faut lutter contre ça.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants, à partir de vidéos directement issues de nos programmes, pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas, avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfour. En partenariat avec Popourri Show et CIUT 89.5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Bonjour, bonjour. Du 20 février au 7 mars 2024, je vous attends au Festival Ciné Franco Jeunesse. Et oui, ce festival cible les étudiants et leurs enseignants, offrant aux jeunes francophones et aux apprenants de la langue française l'opportunité de vivre des expériences inoubliables grâce au cinéma. Cet art cinématographique sert de véritable instrument pour enrichir la connaissance linguistique, sociale et favoriser la reconnaissance culturelle, contribuant ainsi à construire une société inclusive et tolérante. Retrouvez les détails et l'adresse Cineplex Cinema Empress Walk sur cinefranco.com. Allez, je vous donne rendez-vous à partir du 20 février jusqu'au 7 mars pour une expérience inoubliable. Popourri Show, fier partenaire de Ciné Franco. Ciné Franco est fier de vous proposer des films jeunesse qui parlent au public enfant et ado. Les thématiques sont d'actualité avec des histoires d'amour, d'amitié, de prise de conscience de soi et de ses capacités en temps adverse. À l'affiche du Festival Jeunesse Ciné Franco du 20 février au 7 mars, un de nos coups de cœur, Interdit aux chiens et aux Italiens, un film d'animation bouleversant sur l'exil. Le réalisateur Alain Huguetto a fouillé dans son passé pour raconter l'histoire de sa famille, des immigrés italiens de France. De cette recherche, il a fait un film, Interdit aux chiens et aux Italiens. Son processus narratif est original. Il dialogue avec sa grand-mère, qu'il a connue jusqu'à l'âge de 12 ans. Avec son grand-père, il échange avec les mains. Il raconte la misère du Piémont, la faim et l'exil en France pour fuir la faim, le fascisme et trouver du travail. Un film chaleureusement recommandé par la rédaction. Interdit aux chiens et aux Italiens, un film franco-italo-suisse, réalisé par Alain Huguetto, sorti en 2022. Au Festival international du film d'animation d'Annecy. Magnifique film de l'histoire, de l'humour, de la poésie, de l'émotion. J'ai particulièrement aimé le texte sur la bêtise du fascisme, de la guerre. À voir absolument. Au Festival Jeunesse Ciné Franco du 20 février au 7 mars. Bande annonce, DJ Devera.
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio, imbécile!
C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ses ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ».
Pourquoi ils ont écrit ça, papa ?
Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite.
On ne joue pas avec la nourriture.
Il fascisme.
oiseau va sortir.
Menteur, je vois pas l'oiseau.
J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée.
Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ?
Interdit aux chiens et aux Italiens. À l'horaire, eh oui, film Ciné Franco Jeunesse, du 20 février au 10 mars 2024. Que nous réserve à l'édition 2024, justement, on en parle dans un instant avec la fondatrice Marcelli. Et oui, nous accueillons chaleureusement la fondatrice et directrice artistique de Ciné Franco qui nous présente l'édition 2024 à Festival Jeunesse Ciné Franco. Bonjour Marceline.
Bonjour Eric.
Alors, que nous réserve l'édition 2024?
Ah mon Dieu, de l'humour, comme vous l'avez bien dit, du rire, des émotions, mais avec dans la profondeur des thèmes précisément sur l'immigration, sur le racisme, sur les discriminations de toutes sortes, en fait, et de belles histoires sous forme d'animation, comme par exemple la légende du papillon, où c'est un petit papillon, Patrick, qui est né avec une aile plus petite que l'autre. Alors donc, il va devoir compter sur la solidarité sociale pour essayer de migrer avec ses parents. Il y a également, et vous l'avez tellement bien décrit, interdit aux chiens et aux Italiens. C'est vraiment merci pour ça. Jules au pays d'achat, c'est un petit peu... Alors, je vais un petit peu parler de façon incorrecte parce que le film parle des Indiens et de la colonisation, en fait, des terres indiennes par les Canadiens dans les années 40. Alors, c'est un très bon départ pour mieux comprendre... ce que les Premières Nations demandent et leur état d'esprit. Il y a un film à la Roméo et Juliette, 16 ans. Il y a également une très belle animation, Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Oui, en charabie, comme on parle le charabia. L'ambassade de France nous a fait le grand honneur d'inviter Jean-Christophe Roger, qui est un des co-réalisateurs du film, et il sera là pour présenter l'animation aux petits et aux grands également, parce que nous invitons les étudiants des universités comme OCAD, comme l'UOS, comme Glendon, comme l'Université de Toronto, à venir rencontrer le co-réalisateur. Donc le 7 mars, nous avons deux séances, une pour les écoles, et une pour les universités. Que vous dire, pour le multiculturalisme, Zodi et Théu, frères du désert, qui nous emmènent dans le désert du Sahara jusqu'en Dubaï avec la course de chameaux. On a également un film sur la Première Guerre mondiale, La guerre des Lulus, qui a un côté à la fois de conte, parce que ces petits... qui sont dans un orphelinat donc de l'église, d'une église. Cet orphelinat est bombardé par les Allemands et ils se retrouvent à traverser une forêt et croient rencontrer une sorcière. Alors il y a ce conte de Charles Perrault un peu, qui donne cette impression de l'apprentissage de la vie en traversant les dangers de la forêt pour aller vers la Suisse, bien sûr, le pays neutre. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah, nous avons à l'ouverture Mon chat et moi. Quelle belle histoire d'adoption d'un petit chat qui, en fait, est en train d'osciller entre domesticité et retour à la vie sauvage. C'est un très, très beau film.
Alors, pour les enseignants qui nous écoutent en ce moment, qui se demandent, est-ce que mon école, mon conseil scolaire en fait partie? Et sinon, comment s'y prendre pour contacter Ciné Franco?
Alors, le mieux d'abord, ce serait de rendre visite à cinéfranco.com parce que nous avons tous les renseignements là. Je suis en train de préparer justement une infolettre que je vais envoyer aux enseignants. Je dois vous dire que nous avons déjà un grand, grand nombre de réservations.
Et je vois que c'est complet pour la séance du mercredi 21 février, par exemple.
Alors, par exemple, je vais vous dire, le mercredi 21 février, On va faire deux séances le 21 février et on va rajouter une autre le 5 mars. Donc, c'est pour vous dire que on a vraiment, vraiment du monde. Qu'est-ce que je peux vous dire? Coco Ferme est absolument formidable pour les petits hommes d'affaires, adolescents. Qu'est-ce que je vous ai pas raconté l'histoire des vengeances de Maître Poutifard, qui lui est un enseignant qui va se venger de ses enfants qui lui ont pourri la vie au début de sa carrière. Donc ça, c'est
film qui a eu beaucoup de succès en France.
Oui, oui, effectivement. Et puis, il y a bien sûr un regard sur les animaux qu'on peut manipuler. Il y a un regard aussi sur l'humanité. L'humanité, bien qu'on veuille se venger, est-ce qu'on peut se venger d'une élève qui est devenue une vedette et qui a un enfant malade? Ça, c'est donc voilà. Et c'est une, c'est un aspect auquel on peut penser.
Alors, pour les enseignants qui font partie de votre cercle, les autobus scolaires transportent les élèves directement à la salle de projection qui est Cineplex Cinema Empress Walk. Oui, cette année, alors oui. Je rappelle aux gens que c'est un peu dans le nord de la ville de Toronto, 50-95 rue Yonge à North York. Oui. C'est pas loin du métro North York Center, 2 minutes voilà. À pied de North York Center. Et il fera beau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout au long de l'hiver et du printemps. Il n'y aura pas de neige, pas de tempête de neige cette année.
Merci et bon anniversaire oui. Pour nous avoir amené justement le beau temps.
Oui.
Alors voilà.
Alors donc encore une fois, je rappelle aux gens d'aller sur le site de cinefranco.com et n'oubliez pas cette belle surprise, Jean-Christophe Roger, co-réalisateur d'Ernest et Célestine Le Voyage en Charabie, présentera son film en personne. Donc,
oui, oui.
Je vous remercie infiniment et puis je vous souhaite un bon cinéma et un gros bravo pour cette belle programmation et surtout du courage et du succès en 2024.
Merci infiniment et je vous retourne tous ces compliments que vous méritez hautement.
Au revoir Marcel.
Merci Eric, au revoir.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le bruit.
Adrabe la cosa, ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment.
Et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies.
Dans cette langue belle,
aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots,
c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux.
C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan.
Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir.
Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle nous revient chanter ses peines et ses espoirs.
Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent.
qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous.
C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays,
on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays,
on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Du 1er au 31 mars, découvrez les contenus interactifs, éducatifs et amusants pour vous envoler vers l'espace francophone. Célébrés pour une 26e édition, les rendez-vous de la francophonie sont de retour afin de promouvoir la culture francophone partout au Canada. Évoquant l'expression bien connue « rire aux éclats », le thème est un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie. Il promet une édition qui sera à la fois amusante, débordante de belles découvertes. Tout au long du mois de mars, la francophonie, partout au Canada, s'éclatera dans l'ambiance festive des rendez-vous de la francophonie. Et cette année de porte-parole engagée à la promotion de cette 26e édition, Micheline Marchildon, humoriste, comédienne et animatrice. Elle est une franco-manitobaine de Saint-Boniface. Depuis Hollywood, en passant par Toronto et Montréal, elle mène une longue et fructueuse carrière. Elle compte une dizaine de saisons de télé pour un total de plus de 300 épisodes. L'autre porte-parole qui n'a pas besoin de présentation, l'artiste hip-hop franco-ontarien, le Flo Franco, qu'on connaît très bien sur cette antenne. Il propose un son rempli de hautes vibrations, marié à des textes chargés d'émotions. Il décrit son style comme étant de la pop urbaine multicolore. Né à Paris, le Flo Franco est d'origine haïtienne et a grandi dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il désire apporter une perspective multidimensionnelle à ce qui peut parfois être sombre. Sa musique en français transcende et captive de multiples auditoires anglophones comme francophones, jeunes et moins jeunes. Flo croit fermement que la variété est l'ingrédient de la vie. Ainsi, l'ajout de couleurs et de nuances à ses propos fournit simplement à son public une plus grande palette de sons et d'émotions. En 2019, il lance son premier album « Force inhérente ». Depuis, il monte sur scène d'un bout à l'autre du Canada et même aux États-Unis. Eh oui, c'est en janvier 2022 que le Flo Franco revient en force en faisant paraître 5 nouveaux titres, dont 4 accompagnés d'un vidéoclip. Je vous rappelle qu'il est aussi très engagé dans des mouvements politiques antiracistes partout en Ontario. Francophone, bien sûr. Vous retrouverez tous les liens du rendez-vous de la francophonie sur rvf.ca ou tout simplement pour pourrichot.com. Rire aux éclats, les rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars partout au Canada et sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et voici un des titres coup de cœur de Flo Franco sur CUT FM.
Seul quelque part dans mon malheur, je me questionnais sur le bonheur. Si bouleversé, noyé dans mon silence, cœur en bataille, perdu dans ma souffrance.
Drôle de destin,
maintenant te voilà tombé sur mon chemin.
Suivre mon instinct,
vraiment ce qu'il me faut, c'est de partir au loin.
Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi.
À tes côtés, tout est différent. Pourquoi ne pas suivre le courant? Une passion intime, des moments sublimes, le temps immobile, une crainte inhabile.
Rien n'arrive pour rien.
Il faut tout ce que je veux, c'est quelqu'un de bien.
Suivre mon instinct.
Vraiment, ce qu'il me faut, c'est partir au loin.
Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a
vous écoutez, vous allez apprendre quelque chose. Alors, c'est parti, on y va. L'Afrique francophone, la République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi, le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique qui parle français. Il y a 19 pays en Afrique qui ont le français comme langue officielle. Vous êtes en train de les apprendre. Continuez. La République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi, le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique qui parle français.
La République du Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Djibouti, le Rwanda, le Gabon, le Burundi,
le Madagascar, le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. C'est l'Afrique qui parle français. C'est l'Afrique qui parle français.
C'est l'Afrique francophone.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Créée en 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie compte 57 États et gouvernements membres et 23 États observateurs. Elle est présente sur tous les continents du globe et rassemble les francophones du monde entier, faisant de la langue française un lien. Un lien de paix par ses actions de médiation entre les gouvernements, de concertation diplomatique aux Nations Unies et d'enracinement de la démocratie dans les pays francophones. Un lien de solidarité entre les peuples qui favorise le développement économique des pays qui en ont le plus besoin, fournit des formations, notamment aux technologies numériques, et participe à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les pays francophones. Un lien qui harmonise développement économique et intérêts environnementaux, grâce à l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, qui multiplie les actions d'information et de stratégie de maîtrise des ressources naturelles et de l'énergie. Un lien de partage des cultures et des diversités, grâce à ses grands rassemblements sportifs, ses salons et rencontres littéraires, ses festivals de cinéma, de musique et ses fêtes populaires à travers le monde. Un lien d'avenir grâce à l'engagement confirmé par la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, envers la jeunesse, qui tient une place importante dans les actions de l'OIF et envers la défense des droits des femmes. L'OIF réunit les peuples autour de la promotion de la langue française et fait de leur diversité une force au service de la paix, de la solidarité et de l'avenir.
On a cherché un peu à décentraliser l'ACFAS. Donc, c'est ainsi qu'une série de sections là se sont créées.
Surtout pour des chercheurs qui, comme moi, travaillons en français en Alberta, où c'est peut-être pas si naturel de le faire. On a besoin d'endroits comme ça où là, vraiment, c'est célébrer la recherche en français. Ça donne une légitimité, ça donne une crédibilité.
Ça nous a permis quand même de mettre le logo. On n'était pas juste un petit groupe de chercheurs qui voulaient faire des choses en français, mais on pouvait s'affilier à une entité respectable, hein, qui était connue, qui avait de l'histoire.
Dans notre section, c'est la culture de la recherche, c'est la promotion de la recherche. On donne un espace.
Les chercheurs qui œuvrent en francophonie minoritaire le font souvent en isolement. Donc, le but premier avant toute forme d'activité, c'est de briser l'isolement.
On veut rejoindre autant les arts, les sciences humaines sociales, l'éducation et aussi les sciences, biologie, médecine, mathématiques.
L'ACFAS, c'était justement l'occasion pour moi de sortir de la santé et de reconnaître qu'il y a des chercheurs dans d'autres disciplines.
C'est le principal lieu de sociabilité savante francophone au Manitoba, l'ACFAS.
On a eu des conférences en astrophysique, sur le soleil. On a eu des conférences sur l'utilisation des plasmas, enfin physique. On a eu des conférences en nutrition.
Le premier vendredi de chaque mois d'avril, on a la journée phare, la journée forte, qui est la journée des sciences et savoirs. Et au cours de cette journée, il y a des communications libres que peuvent faire à la fois les étudiants et étudiantes, mais aussi des collègues.
Alors, la journée du savoir, c'est l'occasion pour les étudiants de faire une première expérience de la communication scientifique.
L'événement de l'ACFAS général en miniature, en un jour.
Et donc, c'est ouvert à la communauté. Donc, on annonce toutes nos conférences et toutes nos activités à la communauté en entier.
Quand je pense à ma section, je pense à la relève. Je pense au fait que des étudiants qui ont pu présenter leur recherche en français pour une première fois. Et quand je pense à ça, je pense à eux qui ont la chance de faire vivre leur langue et qui ont été dans les écoles d'immersion, les écoles francophones, mais je pense à leurs familles qui sont venues les voir.
L'ACFAS, ça peut être un tremplin pour ces étudiants-là qui ont ensuite fait des maîtrises, doctorats.
Faire de la recherche en français ou juste faire vivre le français dans une province comme l'Alberta, c'est important. C'est important pour la relève, c'est important pour les nouveaux arrivants qui souhaitent s'intégrer à la francophonie. Donc, et c'est un geste politique. Parce que c'est facile de passer à l'anglais, surtout dans le domaine des sciences comme la biologie, c'est un impératif. Mais c'est possible également de montrer qu'il y a une vie en français.
On peut ensemble réfléchir en français chez nos activités.
La francophonie, elle est forte, elle est vivante, et c'est ce qu'on veut montrer avec la France.
Bonjour, bonjour, du 20 février au 7 mars 2024, je vous attends au Festival Ciné Franco Jeunesse. Et oui, ce festival cible les étudiants et leurs enseignants, offrant aux jeunes francophones et aux apprenants de la langue française l'opportunité de vivre des expériences inoubliables grâce au cinéma. Cet art cinématographique sert de véritable instrument pour enrichir la connaissance linguistique, sociale et favoriser la reconnaissance culturelle, contribuant ainsi à construire une société inclusive et tolérante. Retrouvez les détails et l'adresse Cineplex Cinema Empress Walk sur cinefranco.com. Allez, je vous donne rendez-vous à partir du 20 février jusqu'au 7 mars. Pour une expérience inoubliable. Popourichaud, fier partenaire de Ciné Franco.
Bonjour tout le monde, ici Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne à TVA Nouvelles et à LCN. Je suis également cette année porte-parole de la dictée PGL de la francophonie. Et je suis à HEC Montréal dans ce magnifique bâtiment en plein cœur du centre-ville. C'est ici que va avoir lieu la grande finale de la dictée PGL de la francophonie le 22 mars prochain. Vous vous dites c'est dans longtemps, mais d'ici là, faut se préparer. Faut mobiliser ses collègues au travail, inscrire son entreprise à la dictée pour ensuite y participer. Et c'est une occasion formidable de mobilisation. C'est aussi l'occasion de valoriser notre belle langue, le français. Alors, c'est un rendez-vous. Inscrivez-vous à la dictée PGL de la francophonie. Et d'ici là, on aura l'occasion d'en rediscuter. À bientôt.
À l'occasion du mois de la francophonie, Popourri Show, CUTFM, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, les rendez-vous de la francophonie, le Festival Ciné Franco Jeunesse, le Centre de la francophonie des Amériques, présente Rire aux éclats. Un thème qui fait un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars. Tout au long du mois de mars, CUTFM poursuit sa tradition avec des émissions spéciales afin de célébrer les valeurs communes de la francophonie que sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie. Car s'ouvrir sur la francophonie, c'est avant tout s'ouvrir sur le monde. Restez à l'affût de notre programmation et les activités de nos partenaires en cliquant sur popourrishow.com.
Bonjour Madame la Secrétaire Générale. Bonjour. Julie Dufresne, je suis de la télévision canadienne. Madame Mouchikiwabo.
J'ai une énigme pour vous. Qu'est-ce qui est un peu mystérieux et au centre de plein d'intrigues politiques?
J'ai certains malaises concernant les droits humains.
On s'attend pas à la perfection de personne.
Ou la dirigeante a des goûts somptueux, pensez à des rideaux à 20 000 $ pour sa résidence de fonction.
Moi, j'ai pas les moyens de prendre Roche-Beaubois, mais bon, je pense que puisque c'est la francophonie qui paye.
Où le climat de travail est pourri.
Ah oui, c'est une dictature.
Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux, faux, faux.
Et tout ça avec une partie de vos impôts.
Ah, bonjour. Vous êtes avec les Émirats?
Can we speak in English?
Je note qu'ici, c'est The Francophonie.
Eh oui, The Francophonie. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête.
Travailler à l'OIF, c'est particulier, hein? C'est une organisation multilatérale avec des nombreuses cultures qui se croisent. C'est un lieu de travail très riche, en fait, comme toute la francophonie d'ailleurs. Après 2 ans dans l'organisation, je m'interrogeais vraiment sur le pourquoi du comment et à quoi servait cette organisation. À la fin de cette aventure, j'ai eu le goût de le mettre dans un livre et donc j'ai pris le temps de le faire à travers une bande dessinée.
On avait besoin d'éclairage et je voulais pas le faire de façon classique.
Il y a rien qui bouge là, la machine est à l'arrêt depuis 15 ans.
L'idée c'était de poser la question que je continue de poser aujourd'hui, à quoi bon continuer dans le contexte actuel ?
Le contexte actuel. C'est précisément ce qui a attiré notre regard vers cette organisation internationale dans laquelle le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick investissent des dizaines de millions de dollars depuis des décennies.
Il y a du travail à faire à l'OIF. Ça, je concède qu'il y a eu des enjeux de gouvernance, de transparence.
Plonger dans l'univers de l'OIF, c'est ouvrir un livre où les personnages ont des récits parfois troublants.
L'arrivée de l'équipe de Mme Mouchikiwabo, je peux appeler ça dramatique. Ce n'était pas un climat sain.
C'est tourner des pages et être souvent surpris par les rebondissements.
Les employés de l'OIF dénoncent un climat de travail toxique.
En recueillant des témoignages inédits, nous avons à notre tour constitué notre propre bande dessinée pour dévoiler ce qui se cache sous la couverture de l'OIF.
Thank you.
À Niamey, capitale du Niger, l'agence de coopération des pays francophones a été créée.
Nous pensons qu'on peut arriver vraiment à développer une fraternité fondée sur la culture, fondée sur l'usage d'une langue commune.
Après plus de 50 ans d'existence, l'OIF a fait des petits. Elle regroupe 88 pays qui ont en commun la promotion de la langue française. Ses objectifs, favoriser la coopération et les échanges entre pays membres tout en faisant la promotion des valeurs démocratiques et des droits de la personne.
L'Organisation internationale de la francophonie, c'était ça ses intentions à l'époque. C'était des valeurs démocratiques, de bonne gouvernance pour installer voilà, un monde meilleur. C'est naïf comme ça.
Tenter de remplir sa mission, l'OIF s'active sur 4 continents en appuyant des projets visant de réels impacts sur le terrain.
Au Congo, au Burundi et au Rwanda, grâce à l'OIF, on a mis en place un programme de formation pour des filles et des femmes de communautés marginalisées.
Je suis secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne.
Échanges culturels, aide humanitaire. La programmation de l'OIF se déploie en 27 volets qui vont de l'appui de petites économies locales.
C'était une production ancestrale de sel qui se fait dans des trous à sel, en fait.
Au développement durable.
Je suis enseignant et entrepreneur dans le domaine des panneaux solaires.
Et l'éducation est au cœur de son champ d'action.
Enseigner la lecture et l'écriture en français. Dispositif 100% en ligne.
Ça a apporté de grands changements. Ça vous donne la joie au cœur que l'OIF fait vraiment son travail.
Mais c'est lors des sommets de la francophonie, organisés tous les 2 ans, que l'OIF déploie son aspect le plus grandiose.
Watch. Bienvenue, madame.
Merci.
Notre aventure a précisément débuté lors de sa plus récente édition, qui avait lieu à Djerba, en Tunisie, à l'automne 2022. Le sommet, c'est le rassemblement de tous les plus importants joueurs francophones. Lieu de rencontre bilatérale, c'est aussi une conférence ministérielle, des événements culturels et des séances de travail regroupant des dizaines de chefs d'État. Le Canada, excluant le Québec, a versé plus de 24 millions à l'OIF l'an dernier, ce qui en fait le 2e plus grand contributeur après la France. Il est aux premières loges des décisions qui s'y prennent.
Le Canada va renouveler son financement en soutien à l'OIF pour promouvoir la langue française, mais aussi pour renforcer la démocratie et les droits de la personne.
Mais ce qui motive notre déplacement, c'est la façon dont l'OIF dépense l'argent des contribuables qui la finance en totalité. Notre intérêt vient d'un rapport qui a abouti sur notre bureau. Un document commandé par la secrétaire générale elle-même au début de son premier mandat et remis par la firme KPMG en 2020. Ce rapport, l'OIF l'a toujours tenu secret. Il est dévastateur. KPMG a évalué les secteurs clés de l'OIF et constaté un dispositif de contrôle faible, voire inexistant, notamment pour l'octroi de subventions, le suivi du budget et la comptabilité.
Bonjour.
C'est interdit. C'est interdit.
C'est interdit? Pour?
C'est interdit. C'est interdit.
À propos des états financiers que l'organisation rend publics, KPMG signale que l'OIF choisit une présentation en comptabilité financière qui apparaît plus avantageuse pour elle parce qu'elle fait miroiter que l'argent qu'elle reçoit sert essentiellement à financer ses activités sur le terrain. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. En fait, plus du tiers de l'argent destiné aux programmes sur le terrain sert à payer des voyages aux employés et souvent sur des vols en classe affaires et dans des hôtels dont les standards dépassent ceux des autres organisations internationales.
Mais là, on essaie de voir l'hôtel où l'hôtel le plus chic de Djerba, où loge tous les gens qui sont avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie.
En 2020, la question des dépenses avait déjà fait pâlir l'aura de l'OIF après le passage de la secrétaire générale précédente, Michaëlle Jean.
Michaëlle Jean est devenue un embarras pour le Canada.
Des dépenses aussi questionnables, entre autres la rénovation de la résidence à Paris à 500 000 $ avec l'argent public.
Trois ans après KPMG, nous tentons d'avoir accès à ceux qui sont à la tête de l'OIF pour savoir si le ménage a été fait. Nous finissons par rencontrer l'administrateur, le Canadien Geoffroy Monpetit. L'administrateur, c'est le numéro 2 de l'organisation, tout de suite après la secrétaire générale.
Notre organisation est en pleine modernisation, est en pleine transformation.
Est-ce que c'est une réponse directe au rapport de KPMG?
C'est une réponse directe au besoin qui a été soulevé. C'est un marathon, c'est pas un sprint.
Je comprends donc que tout n'est pas réglé.
Toute organisation doit avoir un œil sur l'amélioration de sa performance.
Dans les jours qui suivent, il nous envoie un courriel dans lequel il dit que le format du sommet a été modernisé pour le rendre moins onéreux. Selon lui, les coûts de voyagement pour les employés ont essentiellement diminué de moitié depuis le sommet précédent. Mais il ne nous transmet jamais le montant de la facture. Ce sera la dernière fois que Geoffroy Monpetit nous parlera au nom de l'OIF. Trois mois plus tard, nous apprendrons que son mandat n'est pas renouvelé par la secrétaire générale. Ce départ n'est pas banal.
La nomination à titre d'administratrice de Catherine Cano.
Fin 2020, juste avant lui, la Canadienne Catherine Cano avait quitté le poste d'administratrice précipitamment. Des médias évoquent alors une relation exécrable entre elle et la secrétaire générale.
Tout indique que l'ancienne mairesse de Longueuil et ex-candidate de la coalition Avenir Québec, Caroline Saint-Hilaire, deviendra la numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie.
Nommée en mars dernier, Caroline Saint-Hilaire est donc la troisième administratrice à occuper cette fonction en 4 ans. Jamais de son histoire, l'OIF a vu une telle succession à ce poste. À peine revenu de Djerba, nous recevons une lettre anonyme de Paris qui ouvre un tout nouveau chapitre à notre enquête. Il y est écrit qu'en plus des administrateurs, la secrétaire générale a usé, dans le même temps, 3 directeurs de cabinet, sans compter les directeurs de service. L'organisation est dirigée de façon quasi clanique, avec autour d'elle un petit noyau de collaborateurs qui ont seul sa confiance et exercent réellement le pouvoir. Son mode de management est qualifié de brutal. Des allégations qui rejoignent ce que des sources confidentielles commencent à nous confier.
Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour vite comprendre qu'il y a un climat dans cette organisation qui fait que les gens ne restent même pas à des postes finalement qui ont une certaine renommée. Et oui, ce climat vient du sommet de l'organisation.
Après la pause, le passé trouble de la secrétaire générale de l'OIF.
Et on est aujourd'hui avec une secrétaire générale issue d'un régime totalitaire.
On va être bien franc, l'Organisation internationale de la francophonie, on n'en parle pas tant que ça dans l'actualité chaque semaine. On a peut-être un souvenir un peu plus présent de l'épisode où Michaëlle Jean a été évincé de la tête. Mais sa successeur, on ne la connaît pas tant que ça.
Bonjour, Madame la Secrétaire générale.
Bonjour.
Julie Dufresne, je suis de la télévision canadienne. Madame Mushikiwabo, ça fait plusieurs mois que je sollicite une entrevue auprès de vous. Est-ce que c'est possible de pouvoir discuter? Il m'avait dit qu'elle était à l'extérieur du pays.
Obtenir un entretien avec la secrétaire générale de l'OIF est un défi. Nous avons tenté de nombreuses fois, sans succès. Pour comprendre comment les choses se passent à l'interne, nous avons dû nous tourner vers des voix qui viennent de l'intérieur.
Bonjour.
La source qu'on s'en va rencontrer, qui est une source confidentielle, on peut même pas dire dans quelle grande ville européenne on va la rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui craint les représailles, que si elle nous parle, en fait, que ça nuise à sa carrière. C'est un petit milieu, le monde des organisations internationales, la diplomatie. Donc, en nous parlant, elle prend des risques, en fait.
Pour moi, déjà, c'était important de travailler dans une organisation qui promeut la langue française partout dans le monde. Ça s'est pas exactement passé comme je le souhaitais.
Barbara, dont la voix et le nom ont été changés, est une ancienne employée de l'OIF qui occupait un poste haut placé dans l'organisation sous Michaël Jean, puis Louise Mushikiwabo.
Je pense qu'il y a un vrai climat de crainte qui s'est installé avec le mandat de la secrétaire générale actuelle, oui.
C'est bien la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo qui devrait prendre la tête de l'OIF.
Mais qui exactement est cette femme dont la gestion est aussi contestée? Avant même sa nomination, elle ne faisait pas l'unanimité et pour plusieurs raisons. Pour le principe d'abord, le Rwanda a radicalement tourné le dos aux Français en 2008.
La langue de Molière est actuellement dans une situation peu confortable au Rwanda.
Du jour au lendemain, les employés de l'État et les enseignants doivent travailler en anglais.
I try to speak it, but we meet sometimes the problems about language.
L'année suivante, le Rwanda va encore plus loin.
Rwanda has become the 54th member of the English-dominated Commonwealth.
Ce qui rend les observateurs incrédules.
Vous savez qu'on vous attend là-dessus, tout le monde va se dire, mais ce pays qui privilégie l'anglais, qui privilégie le monde anglo-saxon, tout d'un coup embrasse l'Organisation internationale de la francophonie.
Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth.
Et il y a en plus l'épineuse question des droits humains au Rwanda. Des organismes comme Human Rights Watch, Amnesty International et même le Département d'État américain signalent plusieurs graves entorses aux droits de la personne.
Le président sortant et candidat à un troisième mandat, Paul Kagame, est également accusé de bâillonner la liberté d'expression et de ne laisser aucune place à l'opposition.
En poste depuis plus de deux décennies, c'est lui qui a rapatrié Louise Mushikiwabo, alors à l'étranger, et l'a fait entrer dans son gouvernement en 2008.
D'abord ministre de l'Information, rapidement promu aux affaires étrangères, une fidèle parmi les fidèles du clan qui entoure le président Kagame.
Elle ne se gêne pas pour commenter des disparitions d'opposants politiques, comme en témoigne ce gazouillis.
Cet homme était un ennemi autoproclamé de mon gouvernement et de mon pays. Vous vous attendez à de la pitié?
Et elle défend bec et ongles les positions de son gouvernement.
Rwanda, as any other country that I know of, has its own way of doing things.
Questionnée sur l'état de la démocratie au Rwanda, vue par plusieurs comme une dictature, elle répond ceci.
Le Rwanda, je pense, n'a pas du tout à rougir par rapport à son système démocratique.
Avant que Paul Kagame arrive au pouvoir en 1994, le Rwanda a été le théâtre d'un des pires génocides du 20e siècle.
La capitale Kigali est à feu et à sang.
En 100 jours, au moins 800 000 personnes, surtout des Tutsis, ont été violemment massacrées. Pour le président et Louise Mushikiwabo, eux-mêmes Tutsis, la France est au banc des responsables.
Les coups de froid avec la France suite au génocide de 94, elle les justifie.
The involvement of France as a state in the genocide in 1994, it's not a secret. It's been documented widely.
Ils ont armé et entraîné les soldats et milices Hutus, sachant qu'elles allaient commettre un génocide.
Ce que le président Kagame attend, donc officiellement, ce sont non seulement des excuses, mais une reconnaissance totale du rôle de la France. On peut bien imaginer que du côté de Paris, on n'acceptera jamais de reconnaître l'ampleur de cette responsabilité.
Mais l'arrivée d'un nouveau président à l'Élysée change la donne. Emmanuel Macron souhaite des rapprochements entre les deux pays et l'OIF devient l'outil parfait pour la réconciliation.
Je suis très honorée
de la confiance qui m'est témoignée.
Elle est élue à l'unanimité. Même le Québec et le Canada abandonnent Michaël Jean et mettent de côté leurs principes pour l'appuyer.
J'ai certains malaises concernant les droits humains, mais ce sont des enjeux que j'ai abordés avec le président du Rwanda.
On s'attend pas à la perfection de personne.
Alors, attaché de presse pour Michaël Jean, Bertin Leblanc était présent lors de la nomination de Louise Mushikiwabo. Une scène qu'il relate dans sa bande dessinée.
On est aujourd'hui avec une secrétaire générale issue d'un régime totalitaire, d'un pays qui a abandonné le français. Comment vous voulez qu'on prenne cette organisation au sérieux aujourd'hui? C'est impossible.
Après plusieurs semaines d'enquête, nous recevons d'une source confidentielle un nouveau document, un sondage interne sur le climat de travail à l'OIF. La moitié du personnel a répondu à des questions concernant le harcèlement.
Alors, Julie, on y apprend qu'une importante proportion d'employés là se disent victimes de harcèlement.
Il y a 44% des employés qui disent avoir été victimes de harcèlement moral, 9% qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel.
L'OIF n'avait pas communiqué ses résultats aux États membres. Le Canada, qui a réussi à les obtenir, a confronté la secrétaire générale, qui a dû répondre devant une assemblée tenue à huis clos.
Je m'étonne qu'un sondage interne mené récemment par le comité du personnel ait été diffusé auprès d'un État membre par l'administrateur sortant, j'imagine, sans que la secrétaire générale en soit informée.
Les résultats de la consultation sont troublants, a écrit la ministre Mélanie Joly à Louise Mushikiwabo. Préoccupée, Ottawa a par la suite retiré sa contribution volontaire de 3 millions de dollars pour la prochaine année financière. Ce que nous n'avons pas dit à l'époque, c'est qu'il y a aussi des chiffres préoccupants concernant la fraude à l'OIF. 15 % des répondants pensent avoir été témoins de fraude et 85 % ne savent même pas s'il existe des procédures internes de signalement de fraude ou pensent qu'il n'en existe pas.
Bonjour, madame.
Alors, je suis en feu. J'ai fini ma réunion.
Posez quelques questions.
Parfait. Oui. Très...
De passage à Québec, la secrétaire générale, tout en reconnaissant que le harcèlement est un problème, a minimisé la portée du sondage.
Alors, la réponse peut s'appliquer à il y a 30 ans, elle peut s'appliquer à il y a 2 semaines. Ce qui est sûr, c'est que le harcèlement de toutes sortes n'est pas toléré à l'OIF. J'ai eu l'occasion.
Louise Mushikiwabo elle-même s'est fait reprocher sa conduite dans un jugement qui date de novembre 2021. Le tribunal d'appel de l'OIF souligne qu'elle a mis dans le dossier d'une employée des remarques défavorables et non prouvées qui portent atteinte à sa dignité. L'OIF a alors été condamné à verser 10 000 euros pour préjudice moral à l'employée.
Ah oui, c'est une dictature. Je veux dire, vous rentrez dans leur rang ou alors vous êtes écrasé.
Au retour, des sources à l'interne lèvent le rideau sur le train de vie faste de la secrétaire générale.
J'ai fait certaines choses que je trouvais un peu bizarres.
Pendant des mois, notre équipe a travaillé pour gagner la confiance de ceux qui ont vu, qui savent ce qui se passe dans les bureaux de l'OIF. Et savez-vous quoi? C'est pas mal moins chic que les nouveaux meubles de la secrétaire générale.
Alors, comment ça va?
Ça va, ça va.
Allez, venez avec moi.
Merci, maître.
Cette femme que nous appellerons Gabrielle et dont nous avons aussi changé la voix est une autre ex-employée de l'OIF. Aujourd'hui, elle mène une bataille juridique contre l'organisation.
La nuit a été difficile, très difficile.
L'important, c'est votre dossier, c'est savoir ce qu'ils ont fait de vous, finalement.
Nous avons rencontré Gabrielle peu de temps après avoir reçu une copie du sondage interne concernant le climat de travail à l'OIF. Elle n'était absolument pas surprise des résultats.
Je pense que le résultat, le pourcentage est faible. Les gens ont peur de parler. Comme on dit chez nous, on dit « yeux voient, mais bouche parle pas ».
Gabrielle a été plus de 20 ans à l'emploi de l'OIF. Elle y a travaillé sous 3 secrétaires généraux. À ses yeux, le climat a changé à l'arrivée de Louise Mushikiwabo. Elle est alors l'une des chauffeurs réservés aux plus hauts placés de l'organisation.
J'étais en contact direct avec la secrétaire générale. J'ai fait certaines choses que je trouvais un peu bizarres. Déjà, quand elle était arrivée, on cherchait à meubler son salon. Donc, on cherchait des meubles, on cherchait des rideaux.
Rideaux à 21 000 $, table de salon et vase à 4 000 $, 11 000 $ pour un lit et de la literie. Nous avons obtenu d'une source confidentielle des factures des achats pour la secrétaire générale. Pour son appartement sur la Chic Avenue Montaigne à Paris, l'OIF a délié les cordons de la bourse dans des boutiques haut de gamme.
Oui, on peut dire que c'était faste. Moi, j'ai pas les moyens de prendre Roche-Beaubois, mais bon, je pense que puisque c'est la francophonie qui paye.
Surtout, elle estime que la prise de pouvoir de l'ex-ministre des Affaires étrangères rwandaise a bouleversé l'organisation.
Oui, le climat qui s'est instauré à l'arrivée de l'équipe, c'était un climat délétère. C'était pas sain. L'OIF était devenu... n'était plus l'OIF. Dès le début, chaque agent avait peur de parler. Parce qu'on dit, si tu parles, ils vont aller répéter. On va te virer. Il y avait ce truc dans la tête de chaque agent, tu seras viré.
Le 9 novembre 2020, Louise Mushikiwabo annonce par une simple lettre à 22 employés, dont Gabriel, qu'ils sont licenciés sur le champ. Dans la lettre qu'elle a reçue, on indique que son emploi en qualité de chauffeur a été identifié parmi ceux ne répondant plus aux besoins de l'organisation en raison d'une nécessité de restructuration pour recentrer sur le cœur de sa mission.
Vous saviez que ça faisait partie de son mandat de faire une sorte de ménage?
Franchement, de cette façon, personne ne s'y attendait.
Le tribunal de première instance lui a donné raison. Dans le jugement, il est écrit que la secrétaire générale a opté pour une extrême rapidité, excluant de fait qu'un avis éclairé de la part d'un organe délibérant puisse être émis. Que dès lors, un tel licenciement décidé par la secrétaire générale est manifestement contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du statut du personnel.
Mais ce n'était pas un climat sain.
Le climat malsain, un thème récurrent chez les anciens employés de l'OIF.
Qu'est-ce qui arrive à l'OIF quand on remet en question une décision hiérarchique?
La personne est... elle est vite mise à l'écart.
Des expériences similaires à celles qu'a vécues Barbara nous ont été dépeintes par d'autres ex-employés qui nous ont parlé sous le couvert de l'anonymat. « Ma propre équipe me nuisait », rapporte un membre du personnel très haut placé qui dit avoir quitté parce qu'il en allait de sa santé mentale. « Je n'étais pas assez malléable », a raconté une autre personne qui a œuvré directement sous Louise Mushikiwabo et qui a été remerciée. Pendant qu'elle travaillait à l'OIF, Barbara, elle, a remarqué une déficience flagrante du contrôle financier, même après le rapport de KPMG. Elle mentionne des subventions en plusieurs versements pour lesquels il n'y a tout simplement pas de suivi après le dépôt du premier montant.
Ça veut dire que finalement, on envoie de l'argent et qu'on n'a jamais de justification de ce qui en est fait. Et ça, je sais que c'était un gros problème au sein de l'organisation.
Au moment où Barbara fait ses constats, les problèmes commencent avec sa chef de service.
J'ai été victime de harcèlement moral. C'est la première fois que ça m'arrivait, dans toute ma carrière professionnelle. On a commencé par m'enlever des responsabilités, être omniprésent au niveau de mon travail au quotidien, de me couper aussi des relations avec d'autres départements.
Alice, dont nous avons modifié le nom et la voix, est encore plus haut placée. Elle a constaté le même contrôle dans les plus hauts échelons.
J'ai remarqué tout de suite que, ne serait-ce que pour un dossier classique standard, eh bien, on a besoin de faire valider tout. Aujourd'hui, le management moderne, c'est qu'en fait, les responsables, on leur donne un peu de marge de manœuvre. On n'est pas alarmé.
Dans cet environnement qu'elle compare à un panier de crabes, elle-même a été nommée dans une affaire de harcèlement moral, ce qu'elle nie formellement. Alice estime que l'ambiance, qu'elle qualifie de nocive, émane directement du sommet.
L'entourage de la secrétaire générale a un poids tellement écrasant. Je qualifie ça d'âge de pierre et d'organisation archaïque.
Dans le cadre de ce reportage, une dizaine d'anciens employés se sont confiés à nous sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles. Leurs mots pour le sommet de la hiérarchie et la secrétaire générale sont durs. Humiliation, organisation difficile, la toxicité est réelle. Tout doit rester dans un cercle restreint. Pour la secrétaire générale, l'ouverture à la contrepartie ou aux autres décisions, c'est très peu pour elle. L'OIF qualifie ces témoignages de désinformation, complètement infondée, sans preuves tangibles et de règlement de compte personnel. Alors, quels recours peuvent avoir les employés de l'OIF lorsque les relations de travail se détériorent? Ultimement, ils peuvent se tourner vers la justice.
La partie la plus dure est là, puisque l'organisation se réfugie derrière son immunité diplomatique.
Les immunités sont des biens précieux pour les fonctionnaires internationaux. Ça veut dire que si je veux faire un procès contre vous, qui êtes titulaire d'une immunité, je ne peux pas.
Comme d'autres organisations internationales, l'OIF a son propre tribunal.
Allô, allô, madame. Vous êtes où?
C'était le dernier recours à la disposition de Gabriel pour contester son congédiement.
J'ai un peu d'appréhension ce matin. Tout le passé revient.
Alors là, on se rend au tribunal d'appel de l'OIF qui se trouve à l'intérieur des locaux de l'OIF.
Un tribunal qui a ses particularités. Son emplacement, pour commencer.
Vous êtes dans les bâtiments de l'OIF, donc vous savez, vous n'êtes pas dans un lieu neutre. Vous êtes dans les bâtiments de l'OIF pour juger l'OIF.
J'appréhendais de rencontrer les responsables. J'étais très anxieuse quand je suis allée là-bas. C'était très dur.
Autre façon de faire particulière du tribunal de l'OIF, les audiences se déroulent à l'abri des regards.
Je vais vous demander d'éteindre la caméra.
Ben, j'aimerais juste que vous... Est-ce que c'est possible d'accéder au tribunal?
Non. Là, vous demandez un accès.
Oui, exact.
L'accès au bâtiment est réglementé.
La question, c'est est-ce qu'on peut couvrir... Est-ce qu'on peut couvrir un procès devant le tribunal?
Là, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Les tribunaux en France et dans tous les pays sont tous publics. Et puis vous rentrez, vous assistez. C'est très dangereux, je dirais, de ne pas donner un contrôle démocratique sur les tribunaux.
C'est donc derrière des portes closes que Gabriel doit faire face à la justice pour son congédiement qui a été jugé injustifié en première instance. Elle a décidé de porter la décision en appel parce que le dédommagement de 10 000 euros était dérisoire à son avis.
On était 22 personnes. Une seule personne a décidé que tout s'arrête.
Et cette seule personne, c'était qui?
La secrétaire générale. C'est la secrétaire générale qui a décidé de faire tout ça.
À l'issue de l'audience, Gabriel n'est pas rassuré.
Alors?
C'était dur. Le tribunal était par visio.
J'ai l'impression qu'on a été mal entendu. Il y avait un décalage horaire considérable, je pense. Il y avait la présidente qui était au Burkina Faso. Il y avait un assesseur, une assesseure qui était au Liban. Et il y avait un autre juge, lui, qui devait être au Mali, qui a visiblement été dans un endroit où il y avait du passage, qui faisait des signes sans arrêt à tout le monde, comme s'il voyait des gens. Il était distrait par autre chose. On a probablement été entendu, mais est-ce qu'on va être écouté? Ça, c'est autre chose.
La décision devrait être rendue sous peu. Gabrielle saura alors si elle sera davantage indemnisée pour son congédiement.
C'est facile de finalement se débarrasser de ce type de fonction-là, de secrétaire ou de chauffeur, mais de réorganiser une structure. Ça, c'est un vrai travail. Et ça, ça n'a pas été fait.
Après la pause, Caroline Saint-Hilaire à la rescousse de l'OIF.
Donc, honnêtement, vous me décriviez comment le climat s'il n'est pas toxique alors?
Ben, il est. Honnêtement, je ne vis pas, je ne sens pas ce que vous dites.
On a bien essayé d'obtenir une entrevue avec Louise Mushikiwabo, ce qui nous a été refusé. C'est donc la nouvelle administratrice québécoise, Caroline Saint-Hilaire, qui a répondu à nos questions.
Quand nous l'avons rencontrée dans ses bureaux de Paris, Caroline Saint-Hilaire était en fonction depuis 6 semaines.
Attention.
C'est avec elle, pas avec la secrétaire générale, que l'OIF a autorisé une entrevue.
Je peux pas ne pas vous parler du climat à l'interne. Comment ça va, selon vous?
Ben, déjà, votre question dans le préambule, quand vous me parlez du climat, je m'étonne de la qualification du climat de certains médias. Non, non, vous l'avez pas qualifié exactement, mais je lisais des articles où on parle de climat toxique ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est pas ce que je vois du tout. C'est pas ce que je vois. Donc, honnêtement,
vous me décriviez comment le climat s'il n'est pas toxique alors?
Ben, il est honnêtement, je ne vis pas, je ne sens pas ce que vous dites. Est-ce que des relations de travail tendues entre collègues? Peut-être, mais j'invite tous les employés à porter plainte.
Il y a des gens qui ont même parlé d'une forme de dictature. Est-ce que vous êtes confortable d'entendre ça?
La semaine dernière, je suis allée visiter une direction.
Non, mais répondez à ma question.
Non, mais c'est parce que je peux pas commenter sur ce genre d'allégations-là que moi, je n'ai pas vécu, que je ne vois pas.
Mais vous les avez à travers le sondage, quand même. Ce sondage-là est une image de ce qui est de la perception à l'interne.
Oui. Bien, je pense que il va falloir que des gens ose parler à visière levée plutôt que de faire des entrevues anonymes.
Mais c'est des gens qui ont peur d'avoir des représailles.
Je me suis promenée avec la secrétaire générale. J'ai vu une femme disponible, à l'écoute, qui veut changer les choses, qui le fait depuis 4 ans. Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux, faux, faux.
Malgré les paroles, le Canada n'est toujours pas rassuré.
Comment vous expliquez que le Canada ait eu un tel malaise avec le sondage qu'il ait retiré 3 millions de dollars dans sa contribution?
Je défendrai pas ou expliquer la position du Canada. Et c'est leur prérogative. Cela étant dit...
Mais c'est important. C'est le deuxième pays contributeur.
Oui, mais je pense et je suis confiante qu'ils sont déjà très contents de savoir qu'on a une politique qui est en rédaction.
Ottawa vient d'être avisé que l'OIF a adopté sa politique de harcèlement. Mais difficile de savoir comment elle s'attaque au problème de la fraude potentielle.
15 % des employés qui ont été sondés qui ont été témoins d'un acte de fraude. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, je pense qu'il faut tous les dénoncer à chaque fois. Je veux dire, ça, c'est... Oui, c'est... Mais c'est parce que je... Comment je pourrais vous dire ça? S'il y a un enjeu de fraude, il faut les dénoncer.
Alors, 85 % des gens sondés ne savent pas s'il existe des procédures internes de signalement de fraude en cas de suspicion ou pensent qu'il n'en existe pas.
Oui, il en existe.
Mais c'est pas un problème, ça?
Ben oui.
Qu'ils le sachent pas.
En fait, on a un devoir comme gestionnaire d'une organisation de s'assurer que les employés savent, comprennent et valident nos politiques. De toute évidence, ça n'a pas été fait dans le passé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que moi, ça fait partie de mes objectifs.
Parce qu'au-delà de la perception qu'ils en ont, ça veut dire qu'ils ont peut-être réellement été témoins de fraude. Et ça nous ramène au rapport de KPMG. En avez-vous pris connaissance?
Oui. C'est un rapport... accablant. C'était une organisation qui avait besoin, justement, d'être revampée. Et c'est ce que les pays ont dit à la secrétaire générale. Et c'est ce qu'elle a dit dans son discours quand elle est arrivée. Je vais faire le ménage. Honnêtement, là, ça demande du temps.
L'OIF insiste pour dire que le rapport de KPMG porte sur les années antérieures à l'arrivée de Louise Mushikiwabo et que l'organisation a mis de l'ordre dans ses finances depuis. Les comptes, plaide l'organisation, ont été certifiés chaque année sans réserve par les auditeurs externes et la secrétaire générale a été réélue à Djerba après qu'elle ait fait rapport de son bilan. Mais la gestion des dépenses en programmation demeure un véritable problème et c'est le résumé d'un rapport de vérification de février dernier qui le dit. 18 programmes, 40 projets, 500 activités, la plupart éparpillées et parfois redondantes, C'est dans ces termes que la planification stratégique de l'OIF est qualifiée. Et le contrôle, est-il écrit, est insuffisant à un niveau significatif. Pour cet enjeu, l'OIF s'est vu attribuer un code orange avec amélioration requise. Sur le terrain, nous avons été à même de constater la déception auprès de bénéficiaires, comme ce jeune installateur de panneaux solaires en Haïti qui a répondu à un des appels de projet de l'OIF.
C'est vraiment pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. J'ai investi ce que j'ai aussi pour pouvoir bien faire cette activité.
Même son de cloche de cet autre jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo.
Nous n'avons pas d'accompagnement technique. C'est comme si il faut un travail sans le suivi. C'est comme mettre un enfant au monde et ne pas prendre soin de lui.
Si on ne continue pas au niveau international à parler français, à défendre le français, à promouvoir le français, on n'existe plus.
D'accord.
Alors ça, pour moi, c'est fondamental.
Mais je pense que tout le monde aime la tarte aux pommes. Encore faut-il s'assurer que les dépenses soient bien faites, que l'argent va au bon endroit.
Absolument.
Et que le climat à l'interne soit à la hauteur de ce que
Absolument.
Les contribuables attendent, non?
Mais si on reprend votre exemple de pommes, on peut marcher puis manger une pomme en même temps. Moi, je pense qu'on peut, oui, être davantage transparent. D'ailleurs, l'OIF fait partie des organisations la plus transparente, où les documents sont le plus disponibles.
J'ai demandé à l'administrateur de m'envoyer le rapport d'audit de la Cour des comptes du Maroc. Je ne l'ai jamais reçu.
Les rapports d'audit ne sont pas nécessairement tous publics non plus. Faut voir. Non, mais c'est
mais
parce que...
Mais est-ce que c'est transparent?
Non. J'ai pas dit que vous pouvez aller fouiller dans tous les dossiers puis avoir accès à tout. J'ai dit qu'on est dans une volonté de transparence. Il faut que le document soit public au moment que nous, on juge nécessaire.
Caroline Saint-Hilaire explique que c'est un comité de transparence et donc pas elle qui décide de la diffusion ou non des documents.
Mais vous êtes l'administratrice de cette organisation.
Oui.
Est-ce que vous croyez que ces rapports-là devraient être publics?
Ça dépend lesquels, honnêtement. Ça dépend lesquels. Il faut que ce
donc
soit...
Vous ne pensez pas que les contribuables devraient avoir accès à toutes les informations? Même si c'est entièrement financé par
le... Je pense que les états financiers doivent être publics. Je pense que les appels de projets qu'on fait doivent être publics. Ils le sont.
Mais pas ceux qui montrent qu'il y a des failles.
Bien, je pense que les rapports qui démontrent des failles doivent tout d'abord être présentés aux pays qui sont membres de l'OIF.
Bonjour. Vous êtes les représentants de l'Égypte?
Non, l'Égypte est déjà partie.
Ah, l'Égypte est partie.
La Grèce a quitté.
Ah, la Grèce a quitté.
Au sommet de la francophonie à Djerba, certains kiosques des pays membres et associés de l'OIF en disaient long sur ce qui est devenu la grande francophonie.
Alors, on est au kiosque des Émirats arabes unis. Je note qu'ici, c'est The Francophonie. Ah, bonjour. Bonjour, vous êtes avec les Émirats?
Can we speak in English?
Il faut se poser la vraie question, c'est-à-dire est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir du temps, de l'argent, des moyens, des personnes dans un cadre comme celui-là qui mène nulle part? C'est une évidence.
Alice espère maintenant que les choses changeront.
Puisqu'on n'arrive pas à avoir gain de cause en interne, eh bien, on se retourne vers les journalistes pour que l'opinion publique sache ce qui se passe là.
Même chose pour Gabrielle, l'ancienne chauffeur, qui attend le jugement du tribunal d'appel de l'OIF.
J'ai été jetée commissaire pillère. Mais c'est la justice. Il faut aller jusqu'au bout pour les empêcher de refaire la même chose.
De son côté, Barbara garde un goût amer de son expérience. Elle souhaite que les États membres de l'OIF passent enfin à l'action.
On ferme les yeux sur une situation. C'est triste parce que même si c'est une petite organisation, ça reste des millions. On est laxiste sur des millions. Je pense qu'on se doit d'être irréprochable sur l'argent des contribuables.
Mais si l'expérience vous intéresse, sachez que l'OIF recrute, et pas pour n'importe quel emploi. L'organisation vient tout juste d'ouvrir un poste de chauffeur coursier.
J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.
Pourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
C'est comme ça.
C'est où ?
C'est qui, lui ?
Un jour, une question. Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? Oui, imagine, il y a 67 millions de Français et 274 millions de francophones, des personnes qui parlent français sans forcément être français. La langue française arrive à la 5e place mondiale derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et l'hindi. C'est aussi la 3e langue parlée par les hommes d'affaires dans le monde et la 4e langue utilisée sur Internet. C'est l'histoire qui explique cette influence. Par le passé, la France a conquis et colonisé de vastes territoires où l'on continue de parler le français. Et cette influence n'est pas prête de s'arrêter. En 2060, les francophones devraient être 445 millions de plus. La raison de cette progression? L'Afrique. Ce continent abrite aujourd'hui la moitié des francophones. Or, selon les experts, les Africains seront bientôt 4 fois plus nombreux, multipliant le nombre de francophones.
Bonjour.
Le français deviendrait alors l'une des toutes premières langues parlées dans le monde.
Bonjour.
C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert pas seulement à communiquer, elle transmet aussi les valeurs et la culture du pays où elle est née. C'est également bon pour les affaires, car plus on parle le français dans un pays, plus on y vend de produits français. Mais attention à ne pas gâcher cette chance, car le français subit de plus en plus la concurrence d'autres langues. Alors, que faire? Développer l'apprentissage du français en ouvrant des écoles à l'étranger? Ou encore soutenir les médias francophones, qui font entendre notre langue partout dans le monde? Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Je t'ai prédit, oh. Je ne sais pas tout.